Eh bien, tout d'abord, merci pour cette invitation, qui était d'abord une invitation sur Foucault, et j'avais sous-estimé à quel point m'inviter sur Foucault était extrêmement bienveillant par rapport au sujet, c'est les normes. Et moi, j'ai tout de suite contre-proposé en disant, mais finalement, je ferais bien quelque chose sur Deleuze et Guattari, qui effectivement rejoignait des orientations du séminaire, et par là même, je me piégeais moi-même, tellement Deleuze et Guattari m'ont entraîné en tout cas dans le travail sur des terrains que je connaissais très mal finalement. Donc je vais vous exposer des choses très tâtonnantes par rapport à Deleuze et Guattari. Et la raison principale, c'est tout simplement que Deleuze et Guattari n'ont jamais parlé des normes. Donc on peut dire que la question des normes est une des absences radicales. Je veux dire, je pense qu'on ne trouve pas une seule fois le mot « norme », j'ai l'impression, chez Deleuze et Guattari. Et donc, il y a une absence radicale. Alors, on peut avoir, par rapport à cette absence, on peut émettre deux hypothèses. La première, ce serait de dire qu'il y a un refus explicite du concept, refus conscient et volontaire de ne pas reprendre le concept de norme, parce qu'il serait piégé, surdéterminé par une série de tentatives... notamment dans la philosophie française, la notion de norme renvoyait, à l'époque où Deleuze et Guattari travaillaient ensemble, très fort à une tradition qui passait par Canguilhem, notamment. Peut-être qu'il y avait une volonté explicite de rompre sur cette question et de poser d'autres types de problèmes. Une deuxième hypothèse, ce serait de dire qu'en fait, ils utilisent un autre concept et donc il nous faudrait trouver un concept analogue à celui de normes. Et donc, on a un lexique, un énorme lexique, notamment dans Mille Plateaux. On a des mots comme minoritaire, majoritaire, on a déterritorialisation, on a machine de guerre, machine d'État. Donc, à quoi correspondrait la question de la norme? Si on part du principe qu'il y a bien une problématique de la norme chez Deleuze et Guattari. Mon hypothèse, c'est qu'il y a effectivement une redéfinition, une véritable redéfinition du concept de norme qui va se jouer dans une communication entre deux livres de Deleuze et un qu'il a écrit avec Guattari, c'est Mille Plateaux, et particulièrement le plateau qui s'appelle Postulat de la linguistique et le livre que Deleuze a écrit seul sur Foucault. Alors c'est un exercice un petit peu périlleux parce que, cette hypothèse implique que Deleuze aurait été que Deleuze et Guattari auraient été influencés par Foucault, qu'ils auraient essayé de penser une notion de norme à la fois en continuité et en relative rupture par rapport à Foucault. Mais les données qu'on a pour poser ce problème, c'est le livre sur Foucault qui paraît 10 ans plus tard que Mille Plateaux. Donc il y a un petit exercice, j'aimerais bien faire comme si le livre sur Foucault était paru 10 ans plus tôt et que donc Mille Plateaux suivait son livre sur Foucault. Et je pense qu'on est autorisé à le faire dans la mesure où il y avait de vraies proximités. Il y a une pensée qui imbibe Mille Plateaux qui est très certainement celle de Foucault. Et en travaillant pour cet exposé, je me suis rendu compte à quel point ce plateau de Mille Plateaux, c'est-à-dire les postulats de la linguistique, peut apparaître comme une série, je reprends une formule célèbre d'un autre philosophe, on peut l'imaginer comme une série de notes de bas de page au travail de Foucault, sous le mode « oui mais », le mode à la fois de la filiation et de la distinction. Alors, pourquoi ces deux livres communiquent-ils et comment la communication entre ces deux livres nous permet de poser une question de norme? Quel concept va en surgir? Quel est le concept central de ces deux livres? Pour l'introduire, je propose vous donner une petite anecdote. Quand Foucault avait publié Les mots et les choses, quelques années plus tard, il donnait une interview. Il expliquait que, après Les mots et les choses, quelques personnes très intelligentes lui avaient dit « Mais enfin, il n'y a pas de mots dans votre livre. » Non, il n'y a pas de choses dans votre livre, excusez-moi. Il n'y a pas de choses dans votre livre. Et Foucault rajoute, et il y en avait encore des plus malins qui m'avaient dit, mais il n'y a même pas de mots. Donc un livre qui s'appelle « Les mots et les choses », on n'a pas de choses et on n'a pas de mots. Alors c'est quoi le problème des mots et les choses, si ce n'est pas les mots et ce n'est pas les choses? Et ce qui n'est ni chose ni mot, ce sera les normes, mais sous un autre lexique. Je vous lis quasiment la première page du livre de Deleuze sur Foucault. Deleuze parle de Foucault et il écrit « Le nouvel archiviste annonce qu'il ne tiendra plus compte que des énoncés. Il ne s'occupera pas de ce qui faisait, de mille manières, le soin des archivistes précédents, les propositions et les phrases. Il négligera la hiérarchie verticale des propositions qui s'étagent les unes sur les autres, mais aussi la latéralité des phrases où chacune semble répondre à une autre. Mobile, il s'installera dans une sorte de diagonale qui rendra lisible ce qu'on ne pouvait pas appréhender, d'ailleurs, précisément les énoncés. » Alors, Foucault, les gens qui lui rétorquaient qu'il n'y avait ni chose ni mot, avaient raison. Le travail de Foucault n'est pas un travail sur les propositions, sur les phrases, ni sur les choses, en tout cas dans les mots et les choses. Il ne s'en tient pas aux éléments auxquels les propositions seraient censées se référer, mais à quelque chose qui insiste à l'intérieur des propositions et des phrases. Et ce quelque chose, ce sont donc les énoncés. Donc si vous voulez parler des normes de Foucault à Deleuze, il me semble que c'est parler du mode d'existence, de la circulation, de l'émergence des énoncés. Et on pourrait rajouter dans ce mouvement qui va de Deleuze à de Foucault à Deleuze et Guattari, on pourrait rajouter aussi Canguilhem, avec de vraies ruptures entre Canguilhem, Foucault, Deleuze et Guattari. Mais on pourrait dire que dans cette tradition a tenté de substituer à la notion de norme la question de régime d'énonciation. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel du déplacement qui est opéré, c'est-à-dire des manières d'énoncer. On pourrait presque dire des manières de parler, mais on va voir ce que ici « parler » veut dire. Alors, si on dit que le travail de Foucault, c'est un travail sur les régimes d'énonciation, et que ces régimes d'énonciation peuvent être reliés à la question des normes, eh bien, ça nous pose au moins trois grands ensembles de questions qui vont être partagées, différenciées entre Foucault, Deleuze et Guattari. Tout d'abord, premier grand ensemble de questions que je qualifierais de relatives à la nature des énoncés et qui se définissent par un ensemble de questions du type « Qu'est-ce qu'un énoncé ? Est-ce que les énoncés ont une nature ? Et enfin, quelles en sont les qualités ?» On pourrait dire qu'il y a un premier grand ensemble de questions autour de l'énoncé ou des régimes d'énonciation, c'est des questions relatives à leur nature. Ensuite, il y a un second grand groupe de questions, un second ensemble de questions que j'appellerais relatif à leur consistance, donc on aurait nature puis consistance, et qui ont la forme des questions du type qui énonce, quel est le sujet d'un énoncé, ou encore sur quoi porte un énoncé. Donc là, si vous voulez, la consistance, la nature, ce serait les caractéristiques de l'énoncé. La consistance, c'est à qui s'adresse l'énoncé, qui l'émet et qui le reçoit. Quel est celui qui émet l'énoncé, quel est le statut de celui qui le reçoit. Ces questions, vous pouvez les penser, je vais m'en tenir au concept d'énoncé, mais vous pouvez le penser, selon moi, en l'identifiant directement à la question des normes. Troisième grand ensemble de questions, c'est celle que j'appellerais de circulation, c'est-à-dire comment se diffuse un énoncé, comment ça circule, que se passe-t-il dans les passages, les transferts, les mouvements d'un énoncé à l'intérieur d'un champ particulier, un champ de savoir ou un champ de pratique, et d'un champ à un autre, c'est-à-dire quel type d'isomorphie on va avoir entre différents champs. Donc toute une série de questions sur la circulation des énoncés. Eh bien, cet ensemble de questions vont être à la source ou le point de cristalliser, vont se cristalliser sur une forme que j'appellerais d'empirisme ou d'expérimentalisme des normes. Qui se met en place à partir de 1000 plateaux, si on lit en tout cas le chapitre Postulat de la linguistique comme lecture, comme un certain type de lecture de Foucault. Alors, je vais commencer par la première question, celle relative, c'est le premier ensemble de questions, celle relative à la notion d'énoncé. Qu'est-ce qu'un énoncé ? On a dit, c'est pas une phrase, c'est pas une proposition, ça n'a pas de référent. Pas de critère de vérité en tant que tel, en tout cas pas externe. Alors pour le comprendre, il faut essayer de voir ce que Deleuze et Guattari trouvent chez Foucault. Ils trouvent chez Foucault d'abord une multiplicité de régimes d'énonciation, c'est-à-dire la prison, l'école, l'asile, ce sont des régimes d'énonciation. Ce ne sont pas que des régimes d'énonciation, mais ce sont aussi des régimes d'énonciation, c'est-à-dire des manières d'énoncer ce qui se passe, des manières d'énoncer, de rendre compte d'une réalité. Et cette multiplicité de régimes d'énonciation qu'il trouve chez Foucault, c'est la question de la pratique des savoirs qui va se mettre en place à partir des régimes d'énonciation. C'est-à-dire quel est le savoir qui va se poser sur certains types de domaines. Dans l'archéologie du savoir, Foucault, qui donne très peu d'exemples d'énoncés, parce qu'il considère que tous ces travaux, que les travaux antérieurs, ce sont des exemples d'énoncés, donc il considère que c'est réglé. Il en donne cependant un, qui est un exemple tout à fait anodin et relativement peu intéressant en soi par rapport à l'ensemble des implications de la notion d'énoncé, mais par contre qui révèle très bien ce dont il s'agit avec la notion d'énoncé. Voilà ce qu'il écrit. Le clavier d'une machine à écrire n'est pas un énoncé. Mais cette même série de lettres, A, Z, E, R, T, Y, énumérées dans un manuel de dactylographie, est l'énoncé de l'ordre alphabétique adopté par les machines françaises. Un deuxième type d'énoncé qui vient plutôt de Deleuze et Guattari, c'est les fous à l'asile. Vous avez deux types d'énoncés. AZERTY pour les machines à écrire, mais pas AZERTY au sens où c'est désigné, c'est AZERTY au sens où c'est référé dans des manuels de pédagogie, et les fous à l'asile. Ce sont deux types d'énoncés. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Mais tous les deux présupposent un espace matériel donné, qui est présupposé. C'est-à-dire tous les deux présupposent, ces deux énoncés présupposent qu'il y ait quelque chose, un dehors, matériel, auquel ils renvoient d'une manière ou d'une autre. Ils ne s'y réfèrent pas. Ce n'est pas un mode de référence au sens de ce serait adéquat ou pas. C'est une manière de se relier. Donc on peut dire que les deux, les fous à l'asile ou AZERTY, sont liés à un espace préexistant, un espace matériel préexistant, et qu'ils sont différents de cet espace matériel, c'est-à-dire qu'ils sont différents par nature. Le fait que dans un manuel on dise AZERTY n'est pas là pour dire que la machine est effectivement composée de AZERTY, ou qu'elle a une matérialité, l'énoncé n'est pas là pour reproduire une matérialité à un autre niveau, n'est pas là pour recopier ce qui est donné dans cette matérialité. Donc il y a un espace présupposé, préexistant, à l'énoncé, auquel l'énoncé se réfère ou renvoie, mais qui n'est pas sous le mode du modèle et de la copie, qui n'est pas sous le mode de la reproduction. On dira qu'il y a une hétérogénéité radicale entre l'espace de présupposition matérielle et l'espace d'énonciation. c'est radicalement différent. Il n'y a aucun point commun. C'est ça, quand on dit les fous à l'asile, l'énoncé renvoie à une multiplicité d'individus qui sont en rapport d'hétérogénéité radicale avec l'énoncé qui est fait. C'est-à-dire, et on va devoir, et ce sera toute la pratique des savoir-pouvoirs, ce sera de référer un type d'énoncé à un type de présupposé préalable à l'énoncé. Donc de relier ces deux séries hétérogènes. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, premier point, présupposition matérielle, une sorte de présupposé matériel. Deuxième point, et c'est ce que révèle très bien l'exemple totalement anecdotique et anodin du clavier, c'est que c'est une règle de répartition. Un énoncé n'est pas une définition, ce n'est pas un état des lieux d'une situation, c'est une règle de répartition. On pourrait presque dire que c'est un schème, si le mot schème n'était pas autant surdéterminé par un usage qu'ancien. C'est un schème au sens d'une règle de distribution. Dans le cas du clavier, on peut dire que, en soi, la matérialité du clavier est une distribution, pourrait être pensée comme une distribution au hasard. On pourrait très bien, si on ne savait pas que AZERTY était une règle de répartition des touches, penser qu'il y a simplement les lettres de l'alphabet distribuées selon un ordre totalement aléatoire. C'est parce qu'il y a un manuel qui dit à un moment AZERTY est un mode de répartition qu'on le pense sous le mode de la répartition. Donc le rôle de l'énoncé, c'est un rôle de répartition et de distribution. C'est un schème de répartition d'une multiplicité de singularités données. Comme les fous à l'asile, on peut dire que c'est une multiplicité de singularités que l'énoncé, dont l'énoncé a pour fonction de répartir selon un mode que l'énoncé définira selon un certain type de contrainte, sur lequel je vais revenir. Donc, on pourrait dire à ce niveau-là que c'est une règle ou un schème, et si on pense que norme, l'étymologie de norme, c'est règle, on peut dire que l'énoncé, c'est une norme, au sens où elle est en opposition ou en hétérogénéité, en relation d'hétérogénéité avec ce qu'elle présuppose, et qu'elle produit un mode de répartition de ce qu'elle a présupposé. C'est pour ça que je proposerais de les appeler, ces énoncés, des sortes, des êtres de capture ou des êtres, des prises immatérielles. Parce que l'énoncé en lui-même n'est pas matériel. Il répartit une matérialité, il renvoie une matérialité qu'il va distribuer, mais lui n'est pas matériel. C'est une prise immatérielle sur une réalité matérielle. Je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Pour l'instant, je m'en tiens simplement à ce qu'est un énoncé, c'est-à-dire les caractéristiques. On est toujours dans ce premier ordre de questions, c'est-à-dire quelle est la nature de l'énoncé. Mais si on dit effectivement que sa nature, c'est de répartir des singularités, on peut dire que sa nature, c'est simplement une fonction. Il n'y a pas de nature de l'énoncé, il y a une fonction de l'énoncé. C'est une activité. Ça ne sert à rien de demander des définitions d'un énoncé. Vous pouvez toujours demander c'est quoi la définition d'AZERTY. Ça peut être très intéressant pour perdre son temps, mais en soi, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de définition d'AZERTY. Il y a une fonction de distribution des lettres sur un clavier. Alors, si on dit qu'effectivement, c'est une fonction de distribution, peut dire qu'il n'y a rien de caché dans un énoncé. Ça, je pense que c'est très important par rapport à la posture, surtout la posture politique de Foucault, c'est que c'est sans invisibilité, a priori. Tout est donné dans l'énoncé. L'énoncé dit explicitement et littéralement ce qu'il fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'analyse, d'interprétation au sens d'aller chercher au-delà de l'énoncé ce qu'il fait. Il le dit explicitement, il le dit littéralement. C'est tout, à mon avis, un quiproquo dans l'usage du mot généalogie. On croit, en règle générale, que, comme Foucault se revendiquait de Nietzsche et que lui-même parlait de sa pratique comme une pratique généalogique, on pense que son travail est un travail de recherche du soubassement caché d'une énonciation. Un peu comme, de manière très schématique, comme pour le marxisme, il y aurait une espèce d'infrastructure surdéterminante mais invisible à la surface, et que le travail de l'interprète viserait à manifester. Absolument pas pour Foucault. Tout est littéral, tout est visible sur l'énoncé. Il est difficile d'avoir des énoncés. Il y a très peu d'énoncés. Foucault revient souvent sur le caractère rare de l'énoncé, contrairement aux propositions et aux phrases. Je veux dire, on est dans des sociétés bavardes, mais l'énoncé est rare. Mais tenir un énoncé, c'est tenir la vérité de cet énoncé, sans au-delà, sans implicite. Deleuze l'écrit, « Chaque époque énonce parfaitement le plus cynique de sa politique, comme le plus cru de sa sexualité, au point que la transgression a peu de mérite. Chaque époque dit tout ce qu'elle peut dire en fonction de ses conditions d'énoncé. » Donc vous voyez que le travail généalogique, si on veut, de Foucault ne consiste absolument pas à démasquer le secret de l'énonciation, à débusquer où se cache le soubassement de l'énonciation. Si vous voulez savoir ce qu'est la politique, je vais prendre des exemples très actuels, si vous voulez savoir ce qu'est la politique américaine, vous devez prendre ses énoncés, littéralement. Il n'y a pas à chercher au-delà. Il y a des énoncés qui le disent explicitement, ce qu'on fait, comment on pense. Comme l'écrit Deleuze, elle énonce parfaitement le plus cynique de sa politique comme le plus cru de sa sexualité. Elle l'énonce parfaitement, veut dire littéralement et explicitement. Mais alors, quel est le travail généalogique si tout est donné dans l'énoncé ? Eh bien, le travail généalogique, c'est un travail qui consiste à prendre la fonction de l'énoncé. C'est-à-dire, si on dit que Azerty, c'est une règle de répartition, eh bien, le travail d'interprétation, si on veut, consiste à suivre le mode de répartition que ça produit. Ce n'est pas en répétant Azerty qu'on a compris ce que ça produisait. C'est en voyant, effectivement, ce que ça produit dans un champ particulier, celui d'une relation et une machine à écrire, par exemple. Donc, c'est un travail... Le travail généalogique vise simplement à manifester le type de fonction d'un énoncé, type de fonction indiqué à l'intérieur de l'énoncé lui-même, et non pas au-delà. Et c'est pourquoi Deleuze va, à partir de Foucault, déterminer trois grands espaces de l'énonciation, trois grands espaces qui vont déterminer la fonction de l'énonciation, enfin le type de position d'un énoncé dans un champ particulier. Il va d'abord établir ce qu'il appelle un espace collatéral, c'est-à-dire l'espace de tous les autres énoncés avec lequel un énoncé est en relation, et en contradiction, en opposition. Enfin, c'est l'ensemble de tous les énoncés avec lequel un énoncé donné est en connexion. Donc l'espace collatéral, c'est l'espace de coexistence d'un énoncé ou d'un milieu de l'énoncé qui est le milieu des autres énoncés. Donc si vous voulez savoir la fonction d'un énoncé, première chose à mettre en évidence, c'est le type de transformation, le type de différence qu'il produit dans un espace collatéral. Ensuite, on a un second espace, que Deleuze appelle espace corrélatif. Là, ce n'est plus du tout les autres énoncés, c'est le type de sujet et d'objet à l'intérieur de l'énoncé. C'est-à-dire, si on reprend l'énoncé « les fous à l'asile », l'espace corrélatif, ce sera le fou. Mais pas au sens d'une réalité externe, un dehors, c'est le fou en tant que sujet d'énonciation, c'est-à-dire immanent à l'énoncé. Ce n'est pas en dehors de l'énoncé. On n'en est toujours qu'à des énoncés, on n'en est pas à un rapport entre ces énoncés et leurs présupposés matériels dont j'ai parlé tout à l'heure. On est simplement au mode d'existence de l'énoncé. Donc ce sont ces sujets, ces objets que l'énoncé porte avec lui et qu'il dit explicitement aussi. Donc il n'y a pas non plus à essayer de déterminer quel est le sujet ou l'objet de l'énoncé. On peut effectivement et simplement évaluer les types de voisinage de sujets et d'objets sur lesquels l'énoncé pourra avoir des prises, mais ils sont indiqués dans l'énoncé, et ils sont immanents à l'énoncé. Enfin, on a un troisième espace, que Deleuze appelle l'espace complémentaire de l'énoncé. C'est-à-dire, ce sont l'ensemble des institutions, l'ensemble des milieux, toute cette réalité autour de l'énoncé qui lui donne un sens, enfin, en tout cas dans lequel il a une prise. Si vous dites à votre femme « je te condamne », ça n'a pas exactement le même sens que si un juge le dit dans un tribunal. Il y a un rapport de milieu. Et on peut dire que tout énoncé, on devrait presque parler d'énoncé milieu, c'est-à-dire de type d'existence qui se véhicule avec des milieux d'institutions, de pratiques, qui les portent avec eux. Qu'ils portent avec eux et sur lesquels ils font sens. Et cet espace est très important parce que les variations de milieu vont être des mises en risque de l'énoncé permanente. Et donc des moments d'instabilité de l'énoncé. Des moments de transformation aussi de l'énoncé. Alors on pourrait penser cette question au niveau des normes, c'est-à-dire est-ce que ces trois espaces ne peuvent pas définir un mode d'existence de la norme, c'est-à-dire un espace corrélatif de la norme, un espace collatéral de la norme et un espace complémentaire de la norme. En tout cas, on voit que le travail généalogique va se faire simultanément sur trois types de connexions. L'évaluation de ces trois types d'espaces, collatéral, corrélatif et complémentaire. C'est ça le travail de généalogie, c'est-à-dire d'établir, en tout cas au niveau des pratiques de savoir, je ne dis pas nécessairement au niveau des pratiques de pouvoir, qui sont distinctes chez Foucault, mais au niveau des pratiques de savoir vont consister à voir comment un énoncé s'établit à l'intérieur de ces trois espaces et quel type de différence il produit dans ces trois espaces, quel type de fonction il opère dans ces trois espaces. C'est dès lors toute une sorte de pragmatique de l'énonciation que Deleuze et Guattari retrouvent chez Foucault. C'est-à-dire, nous ne savons pas a priori comment un énoncé va produire des différences dans ces trois types d'espaces. Une espèce de pragmatique qui sera en même temps une sorte de topologie, puisqu'il s'agit de demander chaque fois où se situe un énoncé, dans quel champ, dans quel espace. Et d'une certaine manière, ce dont ils héritent, c'est, pour le dire très schématiquement, de Foucault, c'est le passage d'un dire adéquat, un dire adéquat et descriptif, à un dire fonctionnel, ou à une énonciation fonctionnelle. Donc qui va chaque fois établir le type de fonction dans un champ. Mais Foucault, Deleuze et Guattari ne vont pas s'en tenir à ça. Ils vont ajouter une composante à l'énoncé. Et je pense que c'est une composante très problématique par rapport à Foucault et très intéressante par rapport à la question des normes. Ils vont rajouter une composante qui est presque, je ne sais pas si le mot composante est très bien trouvé ici, parce qu'ils vont pointer vers une sorte de minimum de l'énonciation, un point minimum, presque élémentaire, qui ne se retrouvera jamais en cet état-là, parce qu'on n'a pas de point minimum de l'énonciation, de point élémentaire, mais ils vont essayer de développer une caractéristique minimum de l'énoncé, qu'ils appellent le mot d'ordre. Ce qui passe, et on peut dire d'une certaine manière que Foucault n'a rien décrit d'autre que des mots d'ordre, mais ce qui passe de manière de Foucault à Deleuze et Guattari, c'est l'énonciation vers le mot d'ordre. Un énoncé, c'est un mot d'ordre. Voilà, c'est un peu ce que vont dire Deleuze et Guattari. C'est-à-dire, je vous les cite, l'unité élémentaire du langage, l'énoncé, c'est le mot d'ordre. Alors, il y a une ambiguïté parce qu'ils disent l'unité élémentaire du langage, entre parenthèses, l'énoncé, c'est le mot d'ordre. Comme si l'énoncé et le mot d'ordre, c'était la même chose. Et d'une certaine manière, c'est la même chose. Mais ça pointe vers autre chose, c'est-à-dire vers des présupposés de l'énonciation. Des sortes de... Quel type d'action l'énoncé produit ? J'aimerais bien qu'à chaque fois que je parle d'énoncé, vous fassiez le synonyme norme. C'est-à-dire, à chaque fois, penser est-ce que ce que propose Deleuze et Guattari ici, c'est la norme, c'est le mot d'ordre. La norme, essentiellement, ce serait un mot d'ordre. Ou ce serait l'énoncé, reste encore à clarifier, ce serait l'énoncé dans la mesure où il présuppose des actions, des types d'actions qui se définissent comme mots d'ordre. Et c'est là l'ambiguïté, c'est-à-dire deux choses l'une. Soit on dit que la norme, c'est le mot d'ordre, ou on dit que la norme n'existe que par ses présupposés qui sont des mots d'ordre. On pourrait prendre ici, évidemment, le mot « mot d'ordre » est particulier, ça peut faire peur. Et ça n'a rien de négatif. Les mots d'ordre, nous fonctionnons, nous ne pensons que par mots d'ordre. Enfin, nous sommes habités de mots d'ordre. Nous communiquons la plupart du temps, et pour Deleuze et Guattari, nous ne communiquons que, essentiellement, par mots d'ordre. Je vais vous lire un petit passage qui est la première page des postulats de la linguistique. Deleuze et Guattari écrivent « La maîtresse d'école ne s'informe pas quand elle interroge un élève. Pas plus qu'elle n'informe quand elle enseigne une règle de grammaire ou de calcul. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une lettre manquante dans mon mille plateaux, ce qui est assez bizarre. Peut-être que c'est juste le mien. Ils ont supprimé un E. Ou alors c'est un... Hein ? Il me manque la règle. Donc, elle enseigne, elle donne des ordres, elle commande. Les commandements du professeur ne sont pas extérieurs à ce qu'il nous apprend et ne s'y ajoutent pas. Ils ne découlent pas de signification première, ils ne sont pas la conséquence d'informations. L'ordre porte toujours et déjà sur des ordres. Ce pourquoi l'ordre est redondance. Donc, l'unité, le point élémentaire. Mais ici, il faut être très prudent, parce que quand Deleuze et Guattari disent « élémentaire », ils ne veulent pas dire « fondationnel ». C'est pas « fondateur », c'est pas on ne touche pas au fondement de la langue avec le mot d'ordre. On touche à un point élémentaire, c'est-à-dire à une fonction basique de la langue, mais qui présuppose la langue comme fonctionnement. Eh bien, le point élémentaire de fonctionnement de la langue, c'est le mot d'ordre, c'est-à-dire des phrases du type, il se réfère ici à Spengler, qui écrit des choses comme les formes fondamentales de la parole ne sont pas l'énoncé d'un jugement, ni l'expression d'un sentiment, mais le commandement, le témoignage d'obéissance, l'assertion, la question, l'affirmation ou la négation. Phrases très brèves qui commandent à la vie et qui sont inséparables des entreprises ou des grands travaux. Prêt ? Oui ? Allez-y. Voilà ce que nous communiquons. Prêt ? Oui ? Allez-y. Voilà, ce sont des modèles de communication, au sens où ce sont les points élémentaires du fonctionnement de la langue. C'est ça qui est le plus souvent. Quand je disais que l'énoncé est rare pour Foucault, il est tout aussi rare pour Deleuze et Guattari, parce qu'on ne l'a jamais dans sa littéralité. On l'a de temps en temps, mais on ne l'a pas, le plus souvent, on ne l'a pas dans sa littéralité. Mais ce qui se communique en permanence, ce sont des mots d'ordre. Et je disais, ça n'a rien de négatif, c'est une neutralité pour Deleuze et Guattari. Il ne s'agit pas de critiquer le mot d'ordre. Ce qu'il vit, ce n'est pas de dire nous allons, grâce à un travail d'assaise individuelle et collective, sortir des mots d'ordre et créer des modes d'être ensemble qui seraient purifiés de tout mot d'ordre. Absolument pas. On n'échappe pas au mot d'ordre parce qu'on n'échappe pas à la langue et on n'échappe pas au régime d'énonciation. Alors pourquoi est-ce qu'ils appellent ça, pourquoi cette notion de mot d'ordre est si importante? Parce qu'elle manifeste, beaucoup plus clairement la fonction de l'énoncé. Un énoncé, c'est un mode de répartition, ça produit une transformation de la réalité qu'il présuppose sous le mode du ralliement, de l'affirmation, de la négation, de l'ordre donné. Et ce ne sont pas des ordres explicites, ce sont la plupart du temps des inductions. Et ça, ça me paraît très important par rapport au travail de Foucault sur le pouvoir, parce que vous savez que Foucault avait résisté très longtemps à l'idée que le pouvoir serait répressif. Le pouvoir n'est pas répressif, il est inducteur. Il induit des comportements. Il est positif, affirmatif. Il est rarement négatif et oppositionnel. La première fonction du pouvoir, c'est d'induire un comportement. Et bien, on peut dire la même chose des mots d'ordre. Ce sont rarement des interdictions. Ce sont plutôt des inductions, des comportements induits, des transformations proposées. C'est un champ de possibilités induites par un mot. Et là, je vous disais que on peut identifier le mot d'ordre à l'énoncé et en même temps, c'est quelque chose de différent. Voici ce qu'écrit Deleuze et Guattari au sujet du mot d'ordre. Nous appelons mot d'ordre, c'est quasiment une définition assez compliquée, mais très importante. Nous appelons mot d'ordre non pas une catégorie particulière d'énoncés explicites, par exemple à l'impératif, mais le rapport de tout mot ou tout énoncé avec des présupposés implicites, c'est-à-dire avec des actes de parole qui s'accomplissent dans l'énoncé et ne peuvent s'accomplir qu'en lui. Le mot d'ordre, ce sont les actes de parole qui s'accomplissent dans l'énoncé. C'est cette dimension-là, cette dimension supplémentaire que Deleuze et Guattari introduisent par rapport à Foucault. Ce qui est important, c'est cette sorte de transformation immanente à l'énoncé, parce que les actes de parole, ces actes de parole qui ne peuvent s'exercer que dans l'énoncé, sont immanents à l'énoncé. C'est-à-dire le type d'induction, de transformation de comportement que le mot d'ordre induit n'est pas un comportement externe à l'énoncé. Enfin, ce n'est pas sa première dimension, il est interne, immanent à l'énoncé. Au moment où on l'énonce, quelque chose se transforme. Une situation change. Ils vont se référer très fort à Austin, par exemple, quand dire c'est faire. On peut dire que le mot d'ordre, c'est du performatif. C'est, quand je dis quelque chose, il se fait quelque chose. Alors, on peut faire deux remarques par rapport à ça. Tout d'abord, que ce n'est pas important de savoir à qui s'adresse le mot d'ordre. En tout cas, dans la question de la nature de l'énonciation. Ce n'est pas important de savoir à qui ça s'adresse. Et une des erreurs, ce serait de croire que le mot d'ordre change quelque chose chez celui à qui il s'adresse. Deleuze et Guattari prennent un exemple. Le père qui dit à son enfant « tu n'es plus un enfant ». Ça produit un changement chez l'enfant, imperceptible ou imperceptible, il y a un changement. Mais ça produit aussi, et peut-être plus fondamentalement, un changement chez le père, qui énonce « tu n'es plus un enfant ». C'est-à-dire qu'il se fait porteur d'une énonciation et qui se fait porteur d'un type de discours qui est transformateur aussi pour lui. Ou plus exactement, il ne s'agit même plus de hiérarchiser, on peut dire que l'énoncé, au moment où il est énoncé, transforme et l'enfant et le père. Mais je reviendrai sur ces questions parce qu'elles concernent plutôt la consistance des énoncés, sur laquelle je parlerai un peu plus longuement. On peut dire en tout cas que le type de transformation est immanent à l'énoncé. Deuxièmement, et c'est la fin de la phrase de Deleuze et Guattari, les mots d'ordre sont des actes de parole qui s'accomplissent dans l'énoncé et ne peuvent s'accomplir qu'en lui. C'est-à-dire que le mot d'ordre n'existe que dans ses actualisations. On ne peut pas décrire ce qu'est un mot d'ordre en général. faire une analyse d'un mot d'ordre comme principe abstrait, comme abstraction qui circule, etc., n'a pas beaucoup d'intérêt, parce qu'il n'existe que dans ces actualisations. Donc c'est toujours à quel moment a été dit ce mot d'ordre, qu'est-ce que ça a produit, et comment c'était transféré. D'une certaine manière, il y a une double nature du mot d'ordre, à la fois toujours local, parce qu'il est toujours actuel, il est toujours quelque part, et en même temps général, parce qu'il ne cesse de circuler d'un point à un autre, il n'est jamais exactement formulé dans un énoncé particulier. Il est toujours dans des énoncés, mais jamais totalement donné dans un énoncé. C'est une sorte de... Deleuze et Guattari parlent d'une sorte de puissance de variation. Il ne cesse de varier, et en même temps, il y a quelque chose qui reste, il y a une circulation du même mot d'ordre dans ces variations. Pour résumer cette première ensemble de questions sur qu'est-ce que la nature d'un énoncé, on pourrait dire qu'un énoncé, ça se définit moins par une essence ou une nature que par une fonction, et cette fonction est essentiellement une capture, on peut la définir de la manière suivante, une capture immatérielle d'une multiplicité donnée, et qui induit une transformation immanente à cette multiplicité, qui va induire une transformation immanente à cette multiplicité. C'est une double opération. Capturer une multiplicité, on peut dire que AZERTY capture les touches du clavier, et en retour, ça produit une transformation du type de réalité, du type de matérialité. J'y reviendrai là-dessus. Alors, quelle est la consistance des énoncés? Donc on a là, je pense, un peu réglé la question, posé le paysage de la première grande rubrique, qui est le premier grand ensemble de questions qui était sur la nature de l'énoncé. Maintenant, qu'en est-il de la consistance? C'est-à-dire, à qui ça s'adresse? Qu'est-ce que ça produit? Quel est l'objet de l'énonciation? Etc. Et je pense que dans cette recherche sur la consistance, on peut distinguer deux grandes sous-questions. C'est-à-dire d'abord, qui est le sujet de l'énonciation? Qui énonce? Qui parle? Et deuxièmement, à qui s'adresse l'énonciation? Quel en est l'objet? C'est-à-dire qui parle et à qui ça parle, en gros. Je crois qu'on trouve chez de Foucault à Deleuze et Guattari un même processus. Je vais donc commencer par la première question, c'est-à-dire qui parle. On trouve chez Foucault, Deleuze et Guattari un même processus, qui est un processus, on pourrait dire, de disparition de l'énonciateur. Un refus de la question d'un sujet énonciateur, d'un qui parle qui serait déterminé. Comme l'écrivent Deleuze et Guattari, il n'y a pas d'énonciation individuelle, ni même de sujet d'énonciation. Alors, je veux dire, s'il n'y a pas de sujet d'énonciation individuel et pas non plus de sujet d'énonciation en général, la question reste en suspens, c'est-à-dire qui parle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui parle? La réponse de Foucault à cette question, c'était... plutôt, et qui avait manifestait parfois un héritage un peu heideggerien, c'était un « on parle », un « ça parle », mais sous le mode de l'impersonnalité. L'énonciation, c'est avant tout un discours anonyme et impersonnel. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça parle, et que d'un énoncé à un autre, il y a une parole qui se transfère, qui n'appartient à personne, qui n'est situable nulle part explicitement ou exactement, mais qui va d'un point à un autre dans une espèce de ce qu'on appellerait une sorte de murmure impersonnel. Une sorte de discours détaché de son tout énonciateur possible. Deleuze le commande de la manière suivante. Toutes ces positions de l'énonciateur et de celui à qui s'adresse l'énoncé, ne sont pas les figures d'un jeu primordial dont l'énoncé dériverait. Au contraire, elles dérivent de l'énoncé lui-même, et à ce titre, sont les modes du non-personne, d'un il ou d'un on. Il parle, on parle, qui se spécifie d'après la famille d'énoncés. On dira que les sujets de l'énonciation, le professeur et l'écolier, le juge et l'accusé, etc., viennent occuper une énonciation anonyme, primordiale. Ils vont venir occuper, le moment où un sujet parle, on pourra dire que c'est un sujet qui vient occuper un plan anonyme, un « on », une impersonnalité de l'énonciation. Là, je pense qu'il y a quand même une seconde différence importante entre Deleuze-Guattari d'un côté et Foucault de l'autre, c'est que c'est dans la manière de qualifier ce « on », c'est-à-dire cette parole anonyme. Le modèle que vont prendre Deleuze et Guattari, ce n'est pas le modèle d'une sorte d'impersonnalité circulante, c'est celui du discours indirect libre, c'est-à-dire le sujet de l'énonciation, enfin ceux qui parlent, c'est toujours un discours indirect libre. Et qu'est-ce qu'un discours indirect libre ? C'est, on dirait que la forme la plus simple du discours indirect, c'est « il m'a dit que » ou « Jean a dit que ». C'est-à-dire, je parle à quelqu'un et je dis « Jean a dit que ». C'est-à-dire, c'est un rapport, on intègre dans une parole donnée, on intègre une autre parole absente, d'un énonciateur absent. C'est le discours indirect. Et le discours indirect libre, c'est celui dans lequel les énonciateurs ne sont même plus présents. Mais quelle est la différence avec le « on » ? C'est que c'est une multiplicité de voix qui se communiquent les unes avec les autres. Si je dis « Jean m'a dit que tu viendrais ce soir », bon, ça c'est un discours indirect. Et puis, le discours indirect libre ajoute cet élément qui est « un tel a référé un tel ». C'est-à-dire, on a une sorte de gonflement de la voix ou de la parole par la multiplicité des autres voix qui ont référé la parole. Vous avez une espèce de relais permanent, mais qui intègre chaque moment à l'intérieur d'une voix. Donc, ce n'est plus un « on », c'est une sorte de multiplicité infinie de voix. Le meilleur exemple, c'est le murmure ou la rumeur. Le discours indirect libre, par excellence, c'est la rumeur. On a entendu que. On ne sait plus du tout. Et de toute façon, le moment où on va savoir qui l'a dit, on a totalement perdu la rumeur. Donc, il y a une rumeur qui circule. Et elle circule comment ? Parce qu'une personne a repris la rumeur, l'a déléguée à quelqu'un d'autre, qui l'a repris, qui l'a déléguée, etc. Donc c'est un système de relais. Et dans chaque point du relais, on a intégration des points précédents, des actes précédents de reprise. On n'a plus d'ancrage au niveau du sujet et on n'a plus de référent. On ne sait plus exactement de quoi on parle. Dans le discours indirect libre, tout ce qu'on peut dire, c'est ça circule, on ne sait plus très bien quel en est l'objet. C'est une parole qui circule. Alors, quand je disais tout à l'heure que l'énoncé, c'était le point élémentaire du langage, maintenant on peut dire que c'est le point élémentaire du discours indirect libre. Le mot d'ordre, c'est le point élémentaire du discours indirect libre. C'est-à-dire, c'est cette circulation de voix qui, à un moment, en un point précis, font mot d'ordre. C'est un point élémentaire. Le mot d'ordre n'est pas fondationnel, puisqu'il présuppose le discours indirect libre. Il présuppose une sorte de rumeur qui le transpose, qui le transfère d'un point à un autre. Mais l'action élémentaire de discours indirect libre, c'est le mot d'ordre. C'est induire un comportement, indiquer une action à faire, susciter une transformation. Alors, je trouve ces passages très intéressants sur la question du mot d'ordre, parce que si on réfléchit aux implications, ça veut dire que le mot d'ordre n'existe que dans ses actualisations, il n'existe que dans ses actions élémentaires du discours indirect libre. Et c'est comme si le mot d'ordre se transférait par relais, comme dans cette rumeur, c'est-à-dire elle porte en permanence le mot d'ordre. Et le mot d'ordre, si on accepte le fait que le mot d'ordre transforme celui qui l'énonce, eh bien le mot d'ordre ne cesse de circuler, dans chaque point de sa circulation, transforme ses énonciateurs. Si je reprends l'exemple « tu n'es plus un enfant », eh bien on peut dire qu'il y a une sorte de... Si on fait circuler cet énoncé, il va passer chez un ensemble d'énonciateurs qui vont former ce discours indirect libre, et à chaque point de passage, on va avoir une transformation, une sorte de transformation immatérielle ou incorporelle de celui qui l'énonce. C'est là où c'est d'une efficacité extraordinaire, dans la mesure où le mot d'ordre n'existe nulle part que dans ses reprises « hic et nunc », mais chaque reprise est une transformation de ce qui le reprend. Alors c'est toute une... Et là je m'introduis en partie, je pense que les deux sont totalement liés, c'est le troisième point qui est celui de la circulation, celui des composantes et celui de la circulation sont totalement liés. Parce qu'on peut dire que là, on touche à la question de la circulation du mot d'ordre, ou de circulation, si on veut les relier, la circulation de la norme. C'est-à-dire, ça circule, et la manière dont ça se diffuse, c'est de proche en proche. Quelqu'un le reçoit, ou quelque chose le reçoit et le diffuse, et subit par là même la transformation que le mot d'ordre incitait. Et cette diffusion se passe de proche en proche, dans tout un domaine de savoir, et... dans d'autres domaines de savoir, par des pratiques d'isomorphie, de mise en relation des domaines. Vous voyez qu'il y a une sorte de, j'appellerais ça d'actualisme, c'est-à-dire que le mot d'ordre n'existe qu'en acte, tout le temps. Mais c'est un acte qui est diffus, puisqu'il est dans un discours qui est devenu indirect et libre. Et ça nous entraîne à la deuxième grande question. Qui est un peu le présupposé de l'ensemble, c'est-à-dire à qui s'adresse le mot d'ordre, à qui s'adresse l'énonciation. J'avais dit tout à l'heure, en commençant, en prenant l'exemple du clavier, qu'il y a une matérialité présupposée à l'énoncé, et que c'est là-dessus, c'est sur cette matérialité présupposée que l'énoncé opérait. Et que donc il y a une sorte de différence, chez Foucault en tout cas, une différence entre ce qui est de l'ordre de la matérialité, et qui va, ou dans les termes de Foucault, ce qui est de l'ordre de la visibilité, et ce qui est de l'ordre de l'énonçable. Les deux séries sont totalement hétérogènes, comme la question du clavier tout à l'heure. Et c'est dans ces rapports entre l'énonçable et le visible que Foucault va situer toutes les relations du savoir et du pouvoir. C'est-à-dire comment de l'énonçable se fixe sur du visible, comment du visible produit de l'énonçable, etc. Et c'est pourquoi Deleuze écrit au sujet de Foucault, « Le plus grand problème pour Foucault serait de savoir en quoi consistent ces singularités que l'énoncé suppose. Les lecteurs de Foucault devinent qu'on entre là dans un nouveau domaine, celui du pouvoir en tant qu'il se combine avec le savoir. » Vous avez deux domaines, deux lignes hétérogènes qui ne communiquent pas directement, qui ne sont pas sous le mode de la ressemblance, qui ne peuvent pas être liées, qui ne se relient pas directement, et qui vont présupposer des mises en connexion toujours locales. C'est-à-dire des actes de mise en relation d'un énoncé et des singularités qu'il présuppose et sur lesquelles il a une prise. C'est ça toute la difficulté. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on dit que l'énoncé est en relation de totale hétérogénéité avec la réalité qu'il présuppose, et en même temps, on dit que l'énoncé n'a d'autre réalité qu'une fonction sur cette réalité prédonnée. Alors c'est ça la question, c'est comment l'énoncé opère sur des singularités préalables à l'énonciation. Vous Deleuze et Guattari héritent de la même question, mais ils vont la poser à un autre niveau, avec un autre type de vocabulaire. Ils vont établir une différence entre ce qu'ils appellent les énoncés, donc énoncés, mots d'ordre, langage, discours indirect libre, etc., et une logique des corps. On aurait d'un côté une logique des incorporels, ce qu'ils appellent des incorporels. Azerty, c'est un incorporel. Les fous à l'asile, c'est un incorporel, etc. Ce sont des incorporels. Et on a de l'autre côté, c'est-à-dire l'ensemble des singularités auxquelles ça s'adresse ces incorporels, qui sont des logiques de corps. Et qui fonctionnent à partir de... avec deux types de qualités qui sont les passions et les actions. On a des corps qui sont en relation les uns avec les autres par des actions et des passions réciproques. L'action de l'un introduit une passion sur l'autre. Enfin, on a des économies de passion et d'action au niveau des corps et au niveau des mots d'ordre et des énoncés. On a des transformations incorporelles. Et c'est exactement le même problème de Foucault sur la question de l'énoncé, de ces singularités préexistantes. Voici ce qu'ils écrivent. Il semble que ces actes, c'est-à-dire les mots d'ordre, se définissent par l'ensemble des transformations incorporelles ayant cours dans une société donnée et qui s'attribuent au corps de cette société. Donc une société serait traversée par un ensemble de transformations incorporelles, mots d'ordre, discours indirects, etc., qui s'attribuent au corps de cette société. Ce qui me paraît important, c'est qu'en disant ça, on voit qu'il n'y a pas la question de l'énoncé ou la question de la norme ou la question du mot d'ordre ne concerne pas le corps directement. Je pense qu'il y aurait peut-être moyen de faire une critique à Canguilhem sur ce point-là, c'est-à-dire quand Canguilhem parle des normes du vivant, pour Deleuze et Guattari, c'est absurde. Il n'y a pas de normes du vivant, il n'y a pas de normes du corps, il n'y a pas de normes. Un corps, au sens de Deleuze et Guattari, ça peut être très général, c'est pas simplement le corps biologique. L'usine peut être un corps. C'est, on appellera corps, en gros, toute forme de matérialité. Ce sont des actions et des passions au niveau de matériaux. Donc, on pourrait dire que en marquant aussi fort la rupture et en plaçant tout ce qui est de l'ordre du mot d'ordre, de l'énoncé, de la norme au niveau des incorporels, Deleuze et Guattari refusent toute notre normativité, toute notion de norme au niveau des corporels. Et donc, au niveau du biologique, au niveau du matériel, au niveau du vivant, etc. Quand on avait une tradition, quand même, notamment marquée par Canguilhem, pour laquelle la norme, la question de la norme, était une question qui touchait aussi la question vitale, la question du vivant, et qui s'évaluait par rapport à chez Canguilhem, par rapport à la normale, par rapport à la pathologie, etc. Mais donc, on avait une idée comme ça que la norme était au niveau des corps. Ici, la norme est au niveau des incorporels. Alors, comment s'opère ce passage? Comment s'attribuent des incorporels à des corporels? C'est ça la question. C'est ça la question des régimes d'énonciation de Foucault à Deleuze. On peut prendre deux exemples. Le premier, c'est la condamnation. La condamnation pour un crime. Je veux dire qu'avant, pendant et après le crime, on a des rapports de corps. On a des passions, des actions entre des corps qui ont leur temps de maturation, leur temps d'effectuation, leur date, leur mouvement, leur devenir. En fait, on ne situera pas précisément quand commence le crime, quand il termine. Qu'est-ce qui est vraiment avant et jusqu'où ça va avant et jusqu'où ça va après ? On ne peut pas dater très précisément. On a des temps de maturation au niveau des corps. Ils vieillissent, mais aussi au niveau des actions des corps. Ce sont des actions qui s'enchevêtrent et dont les distinctions sont beaucoup plus artificielles et arbitraires qu'il ne semble a priori. Par contre, la sentence qui fait passer l'accusé à condamné, elle est instantanée. Elle est plus dans un rapport de maturation, elle est instantanée. Dès le moment où le juge dit à l'accusé « vous êtes condamné » et qu'il le transforme en coupable, eh bien on a une transformation instantanée, transformation qui est incorporelle. Parce que ce n'est pas en une fois que le corps de l'accusé se transforme. Elle est incorporelle. Et c'est instantané. Et vous voyez que cette transformation incorporelle du condamné, et qui va s'établir à plein de niveaux, suffit d'avoir passé un doctorat, notamment en philosophie, pour savoir ce qu'est une transformation incorporelle, c'est le moment où on reçoit son diplôme. Alors on nous dit, vous êtes docteur en philosophie. Alors ça ne veut rien dire, parce qu'on avait travaillé beaucoup avant, on travaillera encore après, mais il y a un moment qui est une transformation incorporelle. En une fois, je ne suis plus licencié, je suis docteur. Et plusieurs personnes me féliciteront comme docteur. Donc il s'est passé quelque chose au moment où ça s'est énoncé. Et donc, ces transformations incorporelles, comme je le disais tout à l'heure, elles s'établissent dans les trois cercles, c'est-à-dire dans ce cercle collatéral, ce cercle corrélatif et complémentaire. C'est-à-dire qu'il n'opère que dans un cercle particulier. La condamnation ne s'opère que dans un milieu. Elle s'opère sur un sujet d'énonciation et un objet d'énonciation qui sont donnés dans l'énoncé lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas tel corps précis qui est important dans la condamnation. En tout cas tel qu'elle est lui ici, c'est devenu une espèce d'impersonnalité du condamné dans la sentence, qui après ça va s'individualiser dans le corps. Et enfin, elle est collatérale parce que la condamnation prend sens dans un espace, une multiplicité d'énoncés sans laquelle elle n'a aucun sens. Deuxième exemple, c'est la mobilisation générale. On peut dire une armée, ce sont des actions, des passions. Ce sont des corps, le corps militaire, le corps des machines, le corps des institutions, le corps de... etc., qui ont leur temps de maturation, leur temps de développement, leur temps d'usage, de fonctionnement, etc. Mais si quelqu'un qui est à même à le dire, parce que tout le monde ne peut pas le dire, enfin, vous pouvez faire le test, mais je suis assez sceptique, tout le monde ne peut pas dire « je décrète la mobilisation totale ». Ou s'il le fait, on n'est pas sûr que ça va produire un événement sur les corps auxquels c'est censé s'attribuer. Donc la mobilisation générale, ça va être un moment instantané, une phrase, ça va être un énoncé, qui va produire une transformation incorporelle, à la fois de celui qui l'énonce et de ceux à qui ça s'adresse. Alors, quelle est la différence fondamentale? Enfin, vous sentez quand même qu'il y a des différences entre transformation incorporelle et transformation corporelle, mais ces différences sont explicitées par Deleuze et Guattari, je vous lis le passage. Ces énoncés concernent une transformation incorporelle, même si elle se dit décor, et s'insèrent dans leurs actions et passions. La transformation incorporelle se reconnaît à son instantanéité, à son immédiateté, à la simultanéité de l'énoncé qu'il exprime et de l'effet qu'elle produit. Ce pourquoi les mots d'ordre sont strictement datés, heures, minutes et secondes, et valent aussitôt que datés. Vous avez d'un côté, vous avez deux grandes différences entre les transformations incorporelles, au moins deux grandes différences, entre les transformations incorporelles et les transformations des corps. D'abord au niveau du temps, vous avez d'un côté une instantanéité, c'est instantanément qu'il y a une transformation qui s'opère et qui est datée, comme dit Deleuze et Guattari, et qui ne fonctionne qu'à partir du moment où il a été énoncé, c'est-à-dire à cette date, il s'est dit quelque chose. Alors que les corps ont des temps de maturation, la sentence du prisonnier va prendre un certain temps au niveau des affections du corps. Le crime qui précédait avait des niveaux de maturation, des rythmes propres, qui, en une fois, font communiquer une sorte de maturation à une instantanéité de la transformation incorporelle. Deuxième grande différence, c'est au niveau de l'espace. Il y a une sorte d'ubiquité dans le mot d'ordre, en tout cas de transfert possible. C'est-à-dire que le mot d'ordre peut être dit à plusieurs moments simultanément. Je peux dire, un général peut décréter la mobilisation en France et simultanément un autre peut la décréter en Allemagne. Ça s'est vu. Alors que les rapports de passion et d'action sont des rapports qui sont toujours locaux, qui ne fonctionnent que localement. Donc vous allez avoir une logique, quand Deleuze et Guattari disent vous avez des transformations incorporelles dans une société donnée qui s'attribue à des corps, vous avez quasiment une ligne perpendiculaire qui est celle d'une instantanéité du mot d'ordre, une transformation incorporelle qui va s'opérer à des niveaux de corps qui, eux, auront leur propre temps de maturation. Alors, ils sont distincts, mais ils fonctionnent que par imbrication. C'est-à-dire, vous n'avez pas de passion et d'action sans transformation incorporelle. Toute action et toute passion implique des transformations incorporelles, des énoncés, des mots d'ordre, etc. Et vous n'avez pas de mots d'ordre qui ne s'incarne à un moment déterminé, avec des temps de maturation, dans un corps donné. Vous voyez en quoi la consistance et la circulation sont intimement liées. Le mot d'ordre va circuler par le discours, par cette forme de discours qu'est le discours indirect libre, il va circuler, et à chaque point de circulation, il va produire une transformation instantanée sur des corps pris dans leur propre maturation et qui, par la même, vont le faire varier parce qu'ils vont présenter des nouveaux milieux. Donc, à la fois, le mot d'ordre sera le même et il va varier par ses actions instantanées sur des corps. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, les trois grandes questions sur la nature, la consistance et la circulation. Je voudrais les résumer en guise de conclusion, en les établissant, et là je prends des risques, mais comme ça on aura peut-être une discussion peut-être fort animée, j'en sais rien. Je reprends ce qui précède au niveau des... Et je voudrais établir une série de propositions, 5 propositions, en établissant ce que je viens de dire sur cette analyse des énoncés au niveau des normes. Première proposition, on dira que les normes se définissent par leur fonction d'un espace à la fois collatéral, corrélatif et complémentaire. Donc, il n'y a pas de définition de la norme indépendamment, ou d'une norme indépendamment d'un espace dans lequel ça agit. Demander la définition d'une norme, c'est demander quel type d'action ça produit. Et quel type d'action, quel type d'action ça produit. Deuxièmement, le modèle en est donné dans le mot d'ordre comme transformation immanente des sujets d'énonciation. Troisièmement, on peut dire qu'elle n'est ni externe ni interne au sujet qui la véhicule, mais elle est immanente comme énonciation collective qui n'existe que localement. Deleuze et Guattari vont parler d'une sorte de plissement de subjectivité, de processus de subjectivation, le mot d'ordre, que le mot d'ordre va, auquel le mot d'ordre va participer. Elle est ni externe ni interne au sujet, parce que le sujet sera une sorte de plissement qui viendra à la fois, qui est à la fois ce qui capture, qui intègre le mot d'ordre, et en même temps le mot d'ordre est externe au sujet qui la capture, puisqu'il circule. Donc il est à la fois intégré, et en même temps il n'est pas simplement intérieur.
Oui, mais la première phrase, c'est le commentaire.
C'est à peu près la même chose. Tu veux la littéralité de l'énoncé. Alors je te répète la phrase telle que je l'avais écrite. Elle n'est ni externe ni interne au sujet qui la véhicule, mais elle est immanente comme énonciation collective qui n'existe que localement. elle est immanente comme énonciation collective qui n'existe que localement. Bon, quatrième point, elle se substitue à toute idée d'un fondement, c'est un peu une sorte d'annexe ou de scolie, on pourrait dire, à la troisième, c'est-à-dire elle se substitue à toute idée d'un fondement ou d'un sujet primordial au profit d'une énonciation indirecte et qu'on pourrait appeler ambulatoire. Ça circule, le mot d'ordre circule, et il ne se définit finalement que par sa circulation. Et enfin, cinquième proposition, sa fonction est de produire des transformations incorporelles qui s'attribueront à tes coordonnées. Eh bien, c'est à partir de cet ensemble de propositions qu'il me semble qu'on trouve chez Deleuze et Guattari tout un champ d'une sorte de micropolitique qui va se jouer aussi au niveau des normes. Comme je vous le disais, le mot d'ordre, c'est pas nécessairement, il n'y a pas de critique du mot d'ordre en tant que tel chez Deleuze et Guattari. Il y a simplement des trajectoires de mots d'ordre auxquelles on peut proposer d'autres types de trajectoires. Et ce sera ça, l'expérimentalisme politique qui va se mettre en place, c'est-à-dire résister au mot d'ordre comme constance. Puisque le mot d'ordre circule, on peut dire « mais c'est le même », on peut dire « c'est la même », et si on transfère ça au niveau des normes, on peut dire « c'est la même norme » parce qu'elle circule, ou c'est pointé sur la variation du mot d'ordre, pointé sur la variation de la norme. C'est-à-dire, ça circule, c'est vrai, mais ça n'existe que dans cette circulation variante qui vont déterminer deux régimes qui sont le régime... Dans Mille Plateaux, du majoritaire et du minoritaire. On peut dire que le mot d'ordre comme constance, c'est du majoritaire, et le mot d'ordre comme variation, c'est du minoritaire. Alors ils écrivent, et je finirai avec cette phrase, parce que je pense qu'elle indique les éléments de cette espèce d'expérimentalisme au niveau du mot d'ordre. On dégagera un mot d'ordre du mot d'ordre. Il y a des mots de passe sous les mots d'ordre. Des mots qui seraient comme des passages, des composants de passage, tandis que les mots d'ordre marquent des arrêts, des compositions stratifiées, organisées. La même chose, le même mot, a sans doute cette double nature. Il faut extraire l'une de l'autre. Transformer les compositions d'ordre en composantes de passage. Voilà. Je vous remercie.